Bonjour et bienvenue sur ce podcast traitant des sujets de fond du SEO et de son actualité. Aujourd'hui, on va traiter les bases du SEO, c'est-à-dire ses trois piliers et les généralités. Le SEO, en bref, qu'est-ce que c'est? C'est rendre un site visible sur Google, dans les résultats de recherche naturels de Google. Le nom en anglais SEO veut dire Search Engine Optimization, en français c'est-à-dire optimiser un site web pour les moteurs de recherche. En quatre points, le SEO c'est donc un métier du marketing. On aide les internautes à trouver le site web. C'est un métier polyvalent. Un consultant SEO touche à la technique, à l'éditorial, aux relations presse, ainsi de suite. Surtout un métier d'analyse, on croise plusieurs sources de données, plusieurs outils, plusieurs méthodes. La finalité, ce n'est pas l'outil, c'est l'analyse des données, des informations qu'on en ressort. Et enfin, c'est avant tout un métier de conseil. On est là pour analyser, recommander, rarement pour administrer un site ou implémenter une recommandation. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est en trois points: le fonctionnement des moteurs de recherche, la finalité du SEO et surtout comment fait-on du SEO. Pour commencer, comment fonctionnent les moteurs de recherche dans les grandes lignes? Qu'est-ce qu'un moteur de recherche avant tout? Un moteur de recherche, c'est deux grands principes en coulisses, c'est l'indexation et c'est la pertinence. L'indexation, c'est-à-dire que le moteur de recherche est un service qui indexe des éléments et qui permet à ses utilisateurs de les rechercher à travers des requêtes. Et la pertinence, c'est-à-dire que la finalité du moteur de recherche, c'est d'apporter les résultats les plus pertinents à la requête de l'utilisateur. Pour ça, on a plusieurs étapes entre un site web et un internaute à travers le moteur de recherche. On a l'exploration, on a l'indexation, on a le positionnement. Tout d'abord, l'exploration, en anglais le crawl. La première question à se poser, c'est comment est-ce que le moteur de recherche, à travers ses robots, accède au site, comment il le parcourt, et surtout, est-ce qu'il le peut? Est-ce qu'on le laisse faire? Est-ce qu'un site ou une page web est accessible? Les moteurs disposent de robots d'exploration, on appelle ça des crawlers. Ces robots, ils explorent le web site par site, page par page. Ils analysent le contenu de chaque page et ils suivent les liens vers de nouvelles pages. Ensuite, à force de parcourir toutes ces pages, ils ont toute une liste de pages. Mais ils doivent décider si ces pages méritent d'être retenues. Retenir une page, c'est juger si elle est digne d'être retenue, donc dans l'index du moteur de recherche. Les robots, après l'exploration, décident donc pour chaque page explorée de l'inclure ou non dans leur index. Une page trop faible par rapport à l'ensemble du site sera ignorée, si c'est un doublon, si c'est une page vide. Et un site web sera évalué par un moteur sur la base des pages qu'il a indexées. Enfin, après l'exploration, après l'indexation, on a le positionnement. Le positionnement, c'est la question de quel classement donner à une page web. L'index d'un moteur de recherche alimente les résultats de recherche du moteur. Ces résultats de recherche, c'est en quelque sorte l'interface utilisateur. C'est la barre de recherche de Google et les résultats de recherche. À chaque requête de l'internaute, le moteur de recherche renvoie une liste de résultats classés par pertinence. Et le cœur du SEO, c'est surtout comprendre l'algorithme de positionnement, comprendre pourquoi et comment une page peut se positionner bien se positionner mieux ou pourquoi elle ne se positionne pas sur une requête que l'on vise. La position d'une page web sur une requête, ça dépend de l'algorithme de Google. L'algorithme de Google, il est tout d'abord plutôt secret. Il est là depuis 20 ans, mais il évolue beaucoup. Google lui-même donne des consignes très génériques, mais peu de détails précis. Il y a aussi une part d'intelligence artificielle, donc même les ingénieurs de Google ne maîtrisent pas tout. Et enfin, on peut toujours compter sur la communauté SEO internationale qui décortique cet algorithme depuis bien 15 ans pour identifier les facteurs de positionnement les plus forts. Cet algorithme de positionnement de Google, il est évolutif. La finalité de l'algorithme, c'est de pouvoir proposer les meilleurs résultats à l'internaute. De ce fait, il s'affine en permanence pour s'adapter aux usages du web et aussi en partie aux tentatives des SEO d'exploiter ces failles. L'algorithme de Google, il est aussi instable. On a des mises à jour de cet algorithme qui sont très régulières. On en a plusieurs centaines par an qui sont plus ou moins fortes. Mais en tout cas, elles sont constantes. Un site peut, par exemple, ne rien changer pendant un an et voir quand même ses positions varier fortement. Pourquoi ? Ça dépend. Les mises à jour, elles sont à la fois difficiles à comprendre. On ne peut pas toujours comprendre ce qui s'est passé, d'une part, et d'autre part, elles sont assez ciblées, elles sont en général sectorielles selon le type de site. On a par exemple, à l'été 2018, eu la mise à jour très spécifique, très sectorielle, qui a été nommée la Medic Update. C'était une adaptation majeure de Google à l'intention des internautes dans le secteur du médicament en ligne. Avant cette mise à jour, Google considérait que l'internaute voulait acheter un médicament en ligne quand il cherchait le nom du médicament. Il proposait donc des pharmacies en ligne, donc des commerçants. Après cette mise à jour de l'été 2018, Google considérait que l'internaute voulait plutôt se renseigner sur un médicament, sur sa posologie, sa notice, son utilisation, plutôt que de l'acheter, en considérant sans doute que l'internaute n'avait pas besoin d'acheter le médicament, il l'avait déjà, et n'allait pas forcément vers ses sites e-commerce en priorité. Google a donc mis en avant les sites éditoriaux à la place des sites e-commerce. On a donc vu que les trois éléments principaux d'un moteur de recherche, ces trois actions, c'était l'exploration, l'indexation et le positionnement d'un site web ou d'une page web. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Quelle est la finalité du SEO ? La finalité, c'est donc se placer dans Google. Google ou n'importe quel moteur de recherche que l'on vise, mais Google est en général plutôt seul au monde. En Europe, en Amérique et en Afrique, Google a 92% du marché. Le reste est quand même très éclaté entre Bing, Yahoo, ou des moteurs alternatifs et plutôt récents, mais on peut considérer que c'est résiduel et un site optimisé pour Google le sera pour ces moteurs. On a des marchés particuliers en Asie, sur certains pays, typiquement la Chine et la Russie, où on a des moteurs nationaux qui ont des parts soit égales à Google en Russie, soit majoritaires en Chine. En Chine, on a Baidu qui pèse pour les deux tiers du marché, Sogou un quart du marché, et Google qui est absent par choix politique et commercial, mais Google est absent. Faire du SEO en Chine, c'est quelque chose de très différent que de faire du SEO en Europe. En Russie, on a Yandex, qui est le moteur de recherche russe, qui est à parts égales avec Google. La différence se fait peut-être sur le mobile, les recherches mobiles, mais peut considérer 50%. Toujours est-il que Google, au niveau mondial et dans les marchés qui nous intéressent, est largement majoritaire. À la base, Google, c'est 10 liens bleus, une page de résultats qu'on appelait traditionnellement 10 liens bleus. La requête de l'internaute générait des résultats, 10 résultats, avec 10 résultats naturels, parfois des résultats payants au-dessus, selon la requête. On a dans les résultats de recherche ce qu'on appelle un snippet, c'est-à-dire des éléments textuels qui identifient la page par des métadonnées. On a l'URL de la page, on a le title de la page, c'est-à-dire son titre principal, et enfin une métadescription, c'est-à-dire deux lignes de texte introductives de la page qui nous intéresse. Évidemment, Google a beaucoup évolué depuis 10-15 ans, propose des résultats enrichis selon les types de requêtes aux internautes. On peut avoir des événements, on peut avoir des tutoriels, on peut avoir des produits qui affichent à chaque fois des résultats enrichis adaptés au type de requête. Typiquement, quand vous avez des étoiles de notation et des prix qui s'affichent, c'est parce que votre requête a retourné les produits. C'est quelque chose de particulier, mais de très pratique de la part de Google pour l'internaute et aussi à destination des éditeurs de sites pour mettre en valeur leurs propres résultats. Google, c'est aussi des recherches qui n'aboutissent pas vers des sites web. Parfois, c'est des réponses. Google propose des réponses directes à des questions d'internautes, c'est-à-dire des requêtes très, très génériques et très factuelles où le renseignement n'a pas besoin d'être cherché sur un site web particulier. Google peut très bien le remonter. Typiquement, l'adresse d'un restaurant, on la cherche, Google propose Google Maps, aucun problème. Un cours de bourse, on cherche cours de bourse, plus le nom de la société, Google a son service. On cherche la météo, Google a son service. On cherche des horaires de films, des résultats sportifs, Google peut remonter ces données. Donc, des choses très factuelles qui pas vraiment besoin d'avoir un site web pour apparaître. C'est en partie grâce à un écosystème de sites de la part de Google qui fait parfois concurrence frontalement à certains sites. Bon, Google Maps, évidemment, concurrence les pages jaunes, Mappy, voire via Michelin, mais ça fait bien longtemps qu'on s'y est fait. Google Images et YouTube ont largement écrasé tout site tiers qui ne proposerait que des images ou des vidéos. Et Google Travel, une suite entière qui inclut Google Flight, là pour le coup rentre en concurrence directe avec des acteurs du tourisme. Et évidemment, dans ces mêmes résultats de recherche, on a traditionnellement les résultats payants qui s'affichent en premier sur des requêtes concurrentielles sur lesquelles les acteurs enchérissent. Et ils sont naturellement avant les résultats naturels. Ils sont de moins en moins évidents, de moins en moins distinguables pour des non-initiés d'un résultat naturel. Et ils sont en premier. Donc, ça, c'est des contraintes propres au SEO, propres aux évolutions du SEO, mais auxquelles il faut s'adapter si on fait du SEO. Maintenant, on va s'intéresser à l'opérationnel. Comment est-ce qu'on fait du SEO? Le SEO, concrètement, c'est surtout trois points. On peut classer les multiples facteurs de l'algorithme de Google en trois catégories, c'est-à-dire le contenu, la technique, la popularité. Le contenu, travailler sur le contenu, qu'est-ce que c'est? Le contenu, c'est arriver à avoir un site qui est cohérent dans son marché. La finalité de ça, c'est vraiment d'aligner le site avec son marché, proposer le bon contenu. Le contenu, c'est aligner le site avec son marché. Ce qu'on cherche, c'est identifier les requêtes du marché sur lesquelles le site est légitime, proposer les pages pour cibler ces requêtes et éventuellement optimiser ces pages. Les différents aspects qu'on regarde dans le SEO, sémantique, éditorial ou de contenu, c'est en vrac la qualité des pages, l'optimisation des contenus, l'arborescence du site, la légitimité du site et est-ce qu'on répond bien à l'intention des requêtes. Comment on fait ça? On identifie tout d'abord les potentiels du marché, traditionnellement avec une étude de mots-clés. On traite des milliers de mots-clés de différentes sources, qu'on catégorise en groupes homogènes, et de là, on priorise les catégories les plus fortes sur lesquelles travailler, sur lesquelles créer des pages ou améliorer le site en fonction. Soit on crée une page en faisant des briefs rédactionnels pour des rédacteurs, soit on optimise une page au niveau de soit son contenu, soit ses métadonnées, si la page est pertinente, mais son title, qui est l'élément le plus fort, n'explicite pas la requête visée, on a quelque chose à améliorer. Éventuellement, on peut retravailler sa page qui est déjà parfaite pour viser des extraits enrichis, une meilleure visibilité, donc un meilleur taux de clic dans les résultats de recherche. Donc, le contenu, c'est tout un domaine très varié et surtout le plus puissant, et c'est le chantier de croissance principal en SEO. Le deuxième chantier, très particulier aussi, mais moins stratégique, disons, c'est la technique. Le SEO technique, la finalité, c'est d'avoir un site à la fois rapide et maîtriser. Ce qu'on cherche, c'est de supprimer les freins à la performance du site. On veut un site qui soit rapide pour les robots et pour les internautes. C'est plutôt le côté à la fois UX et à la fois chargement. On veut surtout un périmètre de page maîtrisé, quelque chose qui n'est pas toujours traité, pas toujours évident, même si ça, c'est du bon sens. On doit savoir quel périmètre de page qu'on propose au moteur de recherche, pas plus, pas moins que ce qu'on cherche. Et évidemment, on cherche à avoir une structure cohérente avec les objectifs de performance, qu'on valorise bien les bonnes pages les plus stratégiques à travers le maillage interne et l'arborescence du site, plutôt que valoriser des pages inutiles et enfouir les pages stratégiques dans des niveaux de profondeur ou de maillage interne trop élevés. La technique, c'est donc un domaine très varié, voire un domaine de spécialité en SEO. C'est là où on traite de l'exploration, de l'indexation, la structure du site, de la compatibilité mobile, des temps de chargement, de la localisation pour être sûr qu'on vise les bons pays avec les bonnes langues, ainsi de suite. On cherche un site visible et explorable pour Google. Le robot d'exploration de Google doit pouvoir découvrir le site, le parcourir page par page en suivant les liens et lire le contenu de chaque page pour pouvoir le placer dans son index. Par rapport au début de cet exposé, là, on traite de l'exploration et de l'indexation. Travailler le site pour garantir que ces deux étapes se passent bien, c'est du SEO technique. Le périmètre des pages, plutôt quelque chose qui traite à l'indexation, c'est que la finalité, Google doit voir le même site que vous. Il y a toujours un écart entre ce qu'on voit et ce que Google voit, parce que Google, d'une part, trouve des pages parasites qu'il arrive à générer lui-même, à générer par le site. Le site peut générer des pages involontairement, et l'internaute lui-même ne les voit pas, le webmaster ne les voit pas. On a le cas de WordPress qui, si on le laisse faire, génère des pages d'archives pour chaque mois où des publications ont eu lieu, ou des pages tags, ça peut se doublonner à l'infini dans tous les sens. C'est des pages inutiles qui pourrissent le site. Donc ça, c'est les pages en trop qu'on aurait sur le site, des pages à l'inverse, les parties du site qu'on cherche à valoriser et qu'on connaît, qui sont importantes, on doit s'assurer qu'elles soient retenues par Google, valorisées par le site. Comment on fait ça? Évidemment, on regarde en priorité la Search Console pour être sûr qu'on a bien les bonnes pages qui sont indexées et qu'il n'y a que dans les pages exclues, inversement, il n'y a pas des pages utiles. À partir de ça, en général, on corrige en une fois la structure du site pour être sûr que seules les pages utiles sont vues, mais que les pages stratégiques sont évidemment valorisées. Sur un site e-commerce, ce qu'on valorise, ce ne sont pas les fiches produits, ce sont les pages de catégorie produits. Enfin, le dernier pilier du SEO, c'est la popularité. Popularité, c'est, en termes SEO, le netlinking. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à renforcer le site par le nombre et la qualité de liens qu'il reçoit déjà, sachant que la popularité d'un site est de base pour l'algorithme de Google mesurée en liens, donc en liens reçus d'autres sites, ce qu'on appelle donc des backlinks dans le jargon SEO. Et quand on travaille ça, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à optimiser les liens qu'on reçoit déjà, on cherche à attirer des liens de meilleure qualité, on cherche à valoriser des pages spécifiques, parfois on cherche à nettoyer des liens toxiques quand il y en a. Le lien, c'est vraiment la base d'Internet. Le lien hypertexte fait que le web existe. Des liens entre les pages qui permettent de naviguer sans forcément connaître des URL précises. Et c'est ça qui fait qu'un moteur de recherche existe, parce que dans sa phase d'exploration, il suit les liens hypertextes entre les pages. Et au final, plus un site reçoit le lien, plus il est populaire pour Google, et plus Google le visitera. C'est la même logique au sein même d'un site. Plus une page reçoit de liens internes, c'est-à-dire de liens à partir d'autres pages du même site, plus la page est valorisée. Enfin, en SEO, quand on a traité ces trois piliers, évidemment, on produit des recommandations, on suit leur mise en place, et si on va au bout de la logique, on fait du reporting, on propose des tableaux de suivi en trois points, en général, la même logique qu'un outil d'analytics, avec un supplément avant le site. En trois points, on a d'abord la visibilité, ce qui se passe avant le site, donc la visibilité du site sur le moteur de recherche, en termes de nombre de mots-clés positionnés, d'impressions et de clics. Enfin, le trafic que ça peut générer, donc l'engagement du site quand il est dans les moteurs de recherche. Et enfin, la conversion, est-ce que ce trafic est qualifié? Est-ce que ce trafic va convertir une fois qu'il est sur le site? Donc voilà pour un aperçu global du SEO en trois points. Comment fonctionnent les moteurs de recherche? Quelle est la finalité du référencement naturel? Et comment est-ce qu'on en fait? Très bonne journée, à bientôt sur ce podcast.